Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7e ciel.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au roman autobiographique Cendrillon du trottoir. Et pour cela, je vous propose l'interview de Bianca Bastiani, son autrice. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Bianca Bastiani.
Bonjour Steve.
Tu es l'auteur de Cendrillon du trottoir, un roman autobiographique dans lequel tu parles de ton parcours compliqué autour de l'emprise d'un homme que tu aimais et de la façon dont il t'a notamment plongé dans la prostitution et la pornographie.
Tout à fait.
Donc la première chose que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu peux te présenter?
Oui, alors donc j'ai 57 ans. Je suis née dans les Landes où je vis actuellement. J'ai un fils de 35 ans et le fait que j'ai ce fils a impacté des choix de ma vie. Je suis aussi artiste de spectacle dans une compagnie théâtrale. Et si tu veux, je t'en parlerai un petit peu plus à la fin, Steve.
J'avais bien l'intention de te poser la question. Alors, la raison pour laquelle on fait ce podcast aujourd'hui, hein, c'est Cendrillon du trottoir, qui est un livre marquant, qui parle, comme je l'ai dit au tout début, de ta vie. Hein. Tu as une vie compliquée, en tout cas une première partie de vie compliquée. Est-ce que tu peux résumer succinctement cette histoire-là, Cendrillon du trottoir?
J'avais 17 ans quand j'ai rencontré Lionel, qui est un pervers narcissique, un être très toxique. Et je suis tombée sous son emprise du fait que j'étais très jeune. Et aussi à l'époque, je l'ignorais, mais je souffre du trouble bipolaire. J'étais plus fragile, plus manipulable. Et donc Lionel a exercé une emprise sur moi jusqu'à ce qu'il me prostitue et me fasse tourner dans des films pornographiques et notamment des films sadomasochistes. Je raconte tout ça dans ce livre qui est entièrement autobiographique.
D'accord. Cette emprise, elle dure combien d'années?
Environ une quinzaine d'années.
Dans le livre, à un moment, tu dis qu'il s'agit bien d'une descente aux enfers. Hein.
Tout à fait.
Bon, ça parle bien de sexualité, effectivement, tu le dis bien, d'ailleurs, tu le dis avec des mots qui sont très clairs. Hein. Mais on ne parle pas de plaisir dans ce livre-là, hein. C'est pas présent.
Tout à fait, ce n'est pas un roman masturbatoire,
Ouais,
c'est
clairement.
ma vie. Et je suis un petit peu en colère sur Amazon, à propos de Amazon, qui l'a classé dans la catégorie érotique.
Alors ça, c'est un problème des livres et des librairies d'ailleurs d'une façon générale, parce qu'à partir du moment où ça parle de sexe, ils casent ça dans la catégorie érotique, parce que quelque part, bah, ils n'ont pas d'autres catégories en fait, j'ai envie de dire. C'est un peu problématique, c'est clair. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai abordé avec Marisa Rachel, que tu connais bien, et qui, pareil, elle a écrit un livre qui s'appelle Outrage, c'est très clairement pas un livre érotique, et pourtant, bah, ils savent pas où mettre ça en fait.
J'ai lu Outrage, j'ai adoré le livre de Marissa et pour moi ce n'est pas un livre érotique et je connais effectivement très bien Marissa et j'ai écouté le podcast en question. Alors pour en revenir à la classification de Cendrillon du trottoir, ma libraire l'a classé au rayon féminisme, ce qui
D'accord,
m'a fait très plaisir.
ils ont un rayon féministe là pour le coup, mais c'est pas forcément le cas de tous les libraires.
Oui, mais c'est une petite librairie indépendante.
D'accord. Une des questions que j'aime bien poser aux auteurs, c'est les raisons pour lesquelles ils écrivent. Pour quelles raisons tu écris ce livre?
Alors, j'ai écrit ce livre pour l'aspect comme une catharsis, une thérapie, pour comment dire, me soigner, me guérir, et aussi pour aider d'autres femmes. Pour peut-être empêcher d'autres femmes de tomber dans le même piège que moi, pour mettre en garde. Mais d'abord, je l'écris pour moi, pour tourner la page, pour devenir spectatrice de ma propre histoire.
D'accord. D'ailleurs, tu commences à l'écrire à partir de quand? Tu l'as écrit tout de suite après avoir terminé cette partie difficile de ta vie ou ça t'a pris quelques mois, quelques années avant de commencer à l'écrire?
Alors, à la fin de Cendrillon du trottoir, il y a des poésies. Alors, ce que j'ai fait en premier, quand j'ai au sortir de cette vie-là, j'ai commencé à écrire les poésies, parce que je n'arrivais pas à raconter ma vie en roman. Par contre, en vers, j'arrivais. Donc, j'ai écrit les poésies qui sont à la fin de Cendrillon du trottoir. Je les ai écrits au sortir de cette vie-là. Ça m'aidait beaucoup d'écrire ces poésies. Et puis, je n'en ai rien fait pendant un moment. Et puis après, petit à petit, des années plus tard, l'idée du livre s'est imposée à moi. Alors, j'ai tâtonné, j'ai mûrement mûri tout ça. Et puis, en fait, ça m'a bien pris une dizaine d'années avant de commencer à l'écriture.
D'accord. Ouais, le temps de digérer, j'ai envie de dire, ce qui s'était arrivé.
Oui, et puis le temps de digérer, et puis j'étais prise dans mes soins pour la maladie bipolaire et tout ça, j'avais peut-être pas la force de l'écrire plus tôt. C'était
D'accord.
encore trop douloureux. Il me fallait le recul nécessaire.
Ton livre, il est bien écrit. Moi, j'ai trouvé que sa lecture était facile, fluide. Enfin, tu vas, il n'y a pas de fioritures inutiles. Ta plume, elle est vraiment très efficace, j'ai trouvé. Et ça m'a interpellé parce que parfois, des gens qui vivent des choses difficiles ou pas d'ailleurs, mais des choses dont ils ont envie de parler, mais qui n'ont pas forcément le talent littéraire, ça arrive. Donc, je me suis posé la question, et je t'avais posé la question quand on a préparé l'interview, de savoir à partir de quand toi l'écriture t'intéresse.
Depuis toute jeune, depuis l'école. À l'école, j'étais très bonne en français. J'avais toujours les meilleures notes. Je n'ai jamais eu de problème à l'écrit. Je m'exprime mieux à l'écrit qu'à l'oral. C'est plus facile pour moi. Mais par contre, je n'ai pas fait de grandes études littéraires. J'ai arrêté mes études au bac. Je me considère comme une autodidacte. Et merci, merci pour tes compliments à propos de mon écriture.
Moi, je dis ce que je pense, hein, je dis jamais autre chose. C'est une chose, enfin, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que j'ai souvent entendu dire quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. C'est que pour être bon écrivain, il faudrait avoir une bonne ou voire une excellente maîtrise de la langue française. Alors, moi, je pense que pour être un bon écrivain, il faut avoir lu beaucoup. Pour autant avoir une bonne maîtrise technique, hein, je veux dire, de la langue française, orthographe, grammaire, syntaxe et compagnie, je suis pas d'accord parce que je pense que l'atout principal, enfin la qualité principale qu'on attend chez un auteur, c'est soit d'avoir beaucoup d'imagination pour raconter une histoire. Et pour ça nécessite pas forcément d'avoir une bonne maîtrise technique de la langue française, parce qu'on peut se faire aider. Il y a des correcteurs, il y a tout un tas de. Un livre, ça sort. C'est pas le résultat du travail que de l'auteur. Ou soit, quand c'est pas de la fiction et que c'est comme toi autobiographique, il faut surtout avoir le courage de se mettre à nu, comme tu l'as fait. Et il faut avoir du courage pour raconter son expérience, qui peut comme ça, de prime abord, paraître pas forcément valorisante en plus pour toi. Enfin, Gérard, ce que tu as vécu, c'était pas forcément simple. Enfin, c'était même très compliqué d'ailleurs.
Oui, c'est sûr. Alors, je ne sais pas quoi trop répondre
En fait, tout le monde l'aurait
à
pas
ta
fait. En fait,
question.
moi, c'est surtout ça que je remarque. Il fallait, alors, passe-moi l'expression, mais il fallait avoir des couilles pour le faire, quoi. Enfin, c'était pas. Tout le monde n'a pas autant de courage que tu as pu en avoir quand tu as écrit ce livre-là. Surtout que tu es allé le défendre à la télé, ce qui n'était pas simple en plus, hein. Tu m'as parlé d'une émission de Morandini.
Oui, sur Énergie 12, crimes et faits divers. Et justement, la journaliste qui m'a invitée à cette émission m'a fait la même réflexion que tu me faisais tout à l'heure. Elle a trouvé que pour un témoignage, c'était particulièrement bien écrit. Et donc, elle m'a même demandé si je l'avais écrit toute seule ou si quelqu'un m'avait aidée. Et je lui ai dit, non, non, je l'ai écrit toute seule, personne ne m'a aidée. Et elle était surprise parce qu'elle me dit, en principe, les gens qui écrivent des témoignages, ce n'est pas d'une telle qualité littéraire. Et d'ailleurs, je suis très fière parce que la maison d'édition JDH, ma maison d'édition, l'a publiée dans la collection Magnitude, qui est leur collection phare, leur collection littéraire. C'est la collection des œuvres, c'est-à-dire c'est vraiment des œuvres qui sont bien écrites, qui sont publiées dans cette collection. Et la particularité de cette collection, c'est d'apposer des chiffres qui correspondent au caractère choquant de l'œuvre. Donc moi, c'est Magnitude 8 pour public averti.
Oui, je confirme. Je confirme que c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Encore que bon, on pourrait discuter, mais effectivement, c'est pas à faire lire à des enfants, en tout cas pas trop jeunes, hein, très clairement. Hein. Je pense que les adolescents passés 15 ans peuvent lire beaucoup de choses, pour peu qu'ils soient pas trop trop fragiles, hein, j'ai envie de dire. Mais oui, tu racontes des choses bah, telles qu'elles se sont passées, quoi. Et qu'effectivement, quand on parle d'enfer pour ce que tu as vécu, c'est pas galvaudé. Mais moi, ce que je remarque surtout, en plus, tu me parles de JH, ils t'ont mis dans une bonne collection, bah, super, j'ai envie de dire encore mieux, mais toutes les personnes qui écrivent des livres autobiographiques sont pas publiées. Tu as déjà été publié, c'était ton premier roman.
Oui, c'était mon premier roman et c'était le coup de cœur de Jean-David Haddad. Jean-David Haddad, c'est le, comment dire,
C'est le fondateur, il me semble, de JDH.
oui, le fondateur de JDH qui porte ses initiales, quoi. Et c'est lui en personne qui m'avait répondu par mail qu'il allait, que le thème l'intéressait, qu'il allait le lire. Et donc, c'était un coup de cœur pour lui, Cendrillon du trottoir. Et pour parler du courage, donc tu me disais que j'avais fait preuve de courage, que je me mettais à nu. Dans mes retours de lecteurs et de lectrices, c'est ce qui revient le plus souvent. On me dit toujours, mais quel courage, quelle force. Et c'est vrai que c'est récurrent, on me dit toujours ça.
Oui, c'est pas étonnant du tout, oui. Alors, ton livre m'a inspiré un certain nombre de réflexions dont j'aimerais qu'on parle ensemble. Et d'abord, si j'avais envie de faire un podcast avec toi en particulier, c'est que ton livre illustre bien un sujet que j'ai encore peu abordé. Alors, c'est vrai que je parle souvent de BDSM sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube, mais souvent d'une façon festive, j'ai envie de dire. Mon objectif est souvent de mettre en lumière le fait que le BDSM, c'est pas des activités de marginaux, que et puis de casser un petit peu des idées reçues sur ces pratiques-là qui sont encore trop souvent considérées comme des pratiques de tordus, hein, pour faire simple. Mais ce que j'ai pas abordé souvent, c'est qu'effectivement, sous couvert de BDSM et en particulier sous couvert de relations de domination-soumission, comme tu l'as vécu avec Lionel, certaines personnes se rendent coupables d'abus. Et dans ce cas-là, ça m'embête qu'on parle de BDSM. Tu parles de sadomasochisme dans le livre, mais c'est pas consenti du tout ce que tu as vécu. Il n'y a pas de consentement, en fait.
Tout à fait. Il n'y a pas de consentement. Je n'étais pas consentante et j'étais fragilisée de par mon trouble bipolaire. C'était de la manipulation, c'était de la maltraitance, de la violence. Et j'en ai pris conscience après coup, quoi.
D'accord, c'est-à-dire que tu étais bien sous emprise.
Oui,
D'accord.
j'étais sous emprise. Clairement, c'était de l'emprise.
Et c'est pour ça que ça me dérange qu'on parle de BDSM. Alors, c'est pas un terme que tu utilises dans ton livre, sauf erreur de ma part. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir lu. Et je voudrais bien rappeler qu'on peut parler de BDSM que s'il y a consentement. Si c'est pas du consentement, comme tu viens de le dire. Enfin, s'il n'y a pas de consentement, c'est pas du BDSM, hein, comme tu viens de le dire. C'est de la maltraitance, de la violence, du viol éventuellement, et du tigantier, mais c'est pas du BDSM. Et quelque part, l'amalgame est vite fait. C'est-à-dire que souvent, on se dit, il y a telle pratique, alors c'est du BDSM. Par exemple, je ne sais pas, moi, du bondage, alors c'est du BDSM. Ce n'est pas le cas. Si c'est du bondage sans consentement, ce n'est pas du BDSM. C'est un peu le même amalgame que dire qu'on éduque ses enfants quand on les frappe. On ne les éduque pas. Associer éducation et violence, c'est la même absurdité que lier BDSM et absence de consentement. Et ça, je voulais bien le dire parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. C'est des sujets que je veux aborder, notamment via différents sujets que je vais faire sur l'éducation sexuelle. Mais il y a une chose qui transparaît bien dans ton livre, c'est que Faire la part des choses, c'est compliqué, et notamment pour la justice. T'en parles à un moment. Il y a eu, enfin, dans ton histoire, il y a eu un moment où le Lionel en question a été jugé pour ce qu'il avait fait.
Oui, mais il a été jugé, mais en fait, ça n'a eu aucun effet, ce jugement. Il a été jugé pour proxénétisme sur ma personne. Et en fait, il a écopé d'une, comment ils appellent ça? Tu sais, quand tu ne vas pas en prison, mais
Il a
tu
pris du
dois être...
sursis.
Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il a pris du sursis, mais il n'y avait aucune surveillance, rien du tout, quoi. En fait, ça n'a rien changé du tout.
Ce qui quelque part est un peu aberrant, forcément.
Et puis moi, j'ai porté plainte quand je suis sortie de l'enfer. Et ma plainte a été classée sans suite. D'ailleurs, à la fin du livre, j'ai mis une copie du classement sans suite de ma plainte. Voilà, donc la justice ne m'a pas entendue.
Ce qui arrive
Donc,
malheureusement très trop souvent.
écrire ce livre, c'était un peu me rendre justice moi-même. Alors, je voudrais préciser que j'ai changé volontairement le nom de tous les personnages en écrivant le livre, puisque les personnages sont encore vivants et je ne voulais pas me retrouver avec des procès, avec... Donc, j'ai changé les noms des personnages. Voilà.
Oui, ce qui se fait généralement quand on écrit ce genre de livre, dans la mesure où effectivement on pourrait être attaqué pour diffamation, en fait, hein, tout bonnement.
Après, moi, je voulais parler du monde SM que j'ai pas mal côtoyé pendant ces années-là. Et en fait, moi, du fait que Lionel s'était autoproclamé maître, mais ce n'était pas un maître correct, donc moi, j'ai vu le mauvais côté du SM, quoi. C'était pas sain.
Effectivement, encore une fois, dans toi, il n'y avait pas de consentement dans le sens où il y a emprise et il te fait faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire.
Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai vu vraiment le mauvais côté des pratiques SM avec un mauvais maître qui ne tenait pas compte. Par exemple, normalement, il y a un mot, le
Un
safe
safe word, oui.
word. Oui, alors quand je disais assez ou comme ça, s'il avait décidé de continuer et continuer. Et puis clairement, pour lui, c'était une source de revenus.
Oui.
C'était pour se faire de l'argent sur ma souffrance, puisqu'il vendait les films chez Demonia à une société espagnole. Donc, lui, c'était pour se faire de l'argent, quoi.
Bah, c'était un
Donc,
proxénète en fait, hein.
oui, même dans le SM, quoi.
Et alors, il y a une question qui se pose, parce qu'on se la pose toujours, en fait, et je pense qu'on se la pose à partir du moment où on n'a pas vécu ce que tu as vécu, c'est, elle dure une quinzaine d'années, cette emprise. Alors, tu as donné un début d'explication à la raison pourquoi ça dure aussi longtemps, qui est liée au fait que tu es bipolaire. Mais il y a une autre raison, on a pu en parler tout à l'heure, c'est que, avec ce fameux Lionel, tu as eu un enfant.
Oui, j'ai eu un enfant et c'était très compliqué parce que moi, comment dire, dans ma tête, la construction de la famille parfaite, c'est un papa, une maman, un enfant. Et je ne voulais pas priver mon fils de son père ou de sa mère. Donc je ne voulais pas briser la famille. Et puis Lionel me faisait un chantage affectif avec Lucas, c'est comme ça que j'appelle mon fils dans le livre. Donc me faisait un chantage affectif avec Lucas. Et donc l'emprise était d'autant plus facile à installer qu'il y avait un enfant au milieu.
Il y a une chose qui m'a fait réagir, c'est le sous-titre de ton roman, Le destin d'une Cendrillon dans l'enfer du sadomasochisme. Et c'est un petit peu comme ce que j'ai dit sur le BDSM tout à l'heure, c'est-à-dire que ça m'a fait réagir dans le sens où je comprends qu'il a été choisi ce terme sadomasochisme, parce que clairement c'est ce qui se passe, sauf que en plus il est accrocheur et quand on veut faire lire un livre, bah faut un minimum interpeller les lecteurs. Mais en même temps, il m'a un peu rebuté dans le sens où Ben, il lit l'idée que le sadomasochisme est forcément infernal. Or, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas forcément le cas. Il se trouve que pour toi, ça s'est mal passé. Et puis surtout, le sadomasochisme était pour Lionel une excuse pour te faire faire ce qu'il avait envie de te faire faire.
Tout à fait.
J'ai été chercher carrément la définition de sadomasochisme et je suis tombé sur une définition du Larousse médical qui décrit qu'il y a deux versions, en tout cas, il y a deux acceptations de la définition. Il y en a une qui dit que bah, c'est une pratique globalement saine en lien avec l'acceptation des pulsions de ceux qui s'y adonnent. Dans le respect du consentement. C'est-à-dire que dans le couple, les envies masochistes de l'un sont satisfaites par le caractère plus ou moins sadique de l'autre. Et puis, il y a le sadomasochisme, qui est pathologique, hein, quand le sadique a des comportements qui relèvent de désordre de la personnalité. Et notamment, j'en parle dans mon propre roman, Ma soumise mon amour. Il y a un moment où le personnage principal va voir un psychologue. Parce qu'il a l'impression de faire des conneries, ce qui est effectivement le cas. Et il lui explique qu'un sadique peut éprouver d'autant plus de un vrai sadique, c'est-à-dire pathologique, peut éprouver d'autant plus de plaisir que sa victime n'est pas consentante. Et à un moment dans le livre, dans le tien, je me demande si la description que tu fais de Lionel relève de ça. Est-ce qu'il, d'après toi, était vraiment sadique dans le sens, est-ce que ça lui faisait plaisir de te faire du mal, ou est-ce qu'il le faisait juste parce qu'il y trouvait un intérêt, notamment financier?
Je dirais les deux, parce que Lionel, c'est quelqu'un de profondément malsain. Et je pense que il y a une dimension pathologique dans ce qu'il me faisait faire. Bon, il a été maltraité dans son enfance. Il venait d'une famille dysfonctionnelle, au sens vraiment hard du terme. Et donc, bon, moi, c'est des choses que je savais, tout ça. Et
C'était un enfant battu?
oui, il a été élevé par un beau-père
Ouais, d'accord.
qui l'a battu et qui a violé sa sœur.
Ah, oh, cata. Et puis c'est
Donc, il a
toujours
vraiment.
pareil, on a tendance à reproduire ce qu'on a vécu.
Voilà. Donc, je pense que. Alors, moi, j'excusais beaucoup de ses comportements par rapport à l'enfance qu'il avait vécue. Je lui
D'accord.
trouvais toujours des circonstances atténuantes. Je me faisais un peu l'avocat du bourreau. Je lui trouvais des circonstances atténuantes. Je me disais, ah, mais s'il est comme ça, c'est pas sa faute. Mais bon, plus tard, en faisant une psychothérapie avec une psychiatre, la psychiatre m'a clairement expliqué que. Toutes les victimes ne devenaient pas des bourreaux.
Ouais. Bah ouais. Clairement.
Voilà.
Mais surtout, si tu acceptes ça, au-delà du fait que tu te fais l'avocat du diable, c'est parce que tu l'aimes.
Oui, bon, j'étais éperdument amoureuse.
Ce qui fait accepter bien des choses, évidemment. Il y avait un autre thème que j'avais envie d'aborder avec toi et dont tu parles dans ton livre, c'est la prostitution. Il se trouve que j'ai déjà abordé ce sujet dans un autre podcast et vidéo sur le travail du sexe. Et c'est vrai que j'ai abordé, alors on en a parlé, parce que pour toi c'était un sujet un peu particulier dans le sens où moi j'ai abordé ce sujet-là, mais surtout en parlant du travail du sexe comme étant un métier choisi, ce qui est très clairement pas ton cas.
Tout à fait.
Toi ça a été imposé bah, par Lionel, par un proxénète. Et c'est vrai que c'est un sujet à controverse parce que certaines personnes avec qui j'ai pu discuter estiment que le travail du sexe peut pas être un choix délibéré. Donc, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux me donner ton point de vue?
Tout à fait. Moi, c'est ma position. Je suis même abolitionniste. Tu vois, pour te dire, ma position est vraiment extrême. Sûrement du fait que moi, je suis une survivante de la prostitution. C'est comme ça que je me qualifie. Et je suis sympathisante du mouvement collectif Abolition Porno Prostitution. D'ailleurs, elles m'ont interviewé, les filles du collectif.
D'accord. Est-ce que
Et
tu veux préciser d'abord ce que c'est que d'être abolitionniste?
c'est-à-dire que pour nous, la prostitution ne devrait pas exister. Et on est contre le travail du sexe, quoi. Nous, on estime que même les gens qui se disent travailleurs du sexe sont dans le faux. Une fois qu'ils en seront sortis, ils comprendront leur erreur, quoi. Je ne sais pas si
Si, je
j'explique
pense que tu
bien
l'expliques
ça.
bien. En fait, ce que tu veux dire, arrête-moi si je me trompe, c'est que tu estimes qu'on peut pas être consentant que ça peut pas être un vrai choix et que les gens qui sont travailleurs du sexe ne sont ne le font pas réellement volontairement. Ils y sont soit obligés, soit ils se leurrent sur ce qu'ils considèrent comme étant leur envie de faire du travail du sexe, en fait, c'est ça?
Tout à fait, tu exprimes tout à fait ma pensée que j'avais du mal à traduire à l'oral. Et voilà, moi, c'est ma position. Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis sur ta chaîne en affichant ma position,
Alors,
mais bon, je pense que de par mon parcours de vie, cette position, elle est
d'accord.
compréhensible.
Oui, elle est. Alors déjà, oui, elle est compréhensible. Et ensuite, comme je le dis souvent, enfin peut-être pas, je le dis souvent quand je prépare les interviews avec les gens que j'interviewe, mais je le dis peut-être pas assez à l'antenne. J'ai un point de vue, en l'occurrence là, sur ce sujet-là, j'ai pas le même point de vue que toi, mais peu importe. Enfin, pour moi, la liberté d'expression est importante, et la liberté d'expression, ça ne veut pas juste dire donner la parole aux gens qui sont d'accord, hein, forcément avec moi. Donc, on n'a pas le même point de vue, mais je peux le comprendre. Et puis, je trouve ton point de vue intéressant aussi, et il vaut le coup aussi d'être partagé. Alors, maintenant, je voudrais que tu nous parles de tes autres écrits, parce que tu n'as pas écrit que Cendrillon du trottoir, tu as écrit aussi Le Pentacle de Vénus. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, de quoi il s'agit?
Alors, c'est tout à fait différent. C'est une fiction, c'est une duologie, donc c'est deux tomes, et c'est sur la sorcellerie. Donc, ça se passe dans les Landes, dans ma région, sur différentes époques. C'est le destin de trois femmes qui ont des pouvoirs magiques. Et ça commence pendant l'Inquisition, durant la chasse aux sorcières, par l'histoire d'une sorcière qui est brûlée sur le bûcher. Et ça continue de nos jours dans mon village natal. Et ça m'a plu d'écrire cette histoire. C'est
C'est de la fantaisie, en fait.
oui, voilà, c'est
D'accord.
une fantaisie. Voilà,
Et ça a été
c'est ça.
édité également, ou tu l'as auto-édité?
Non, non, c'est édité par JDH dans la collection F. Falf.
Par le même éditeur, JDH, que Cendrillon du trottoir, en fait.
Oui, tout à fait, j'ai continué avec eux. Le Pentacle de Vénus, ça leur a plu. Et la collection est falche, c'est science-fiction, fantasy, fantastique. J'ai aussi participé toujours chez JDH à un collectif de nouvelles ésotériques qui s'appelle À l'encre de l'esprit, qui était sorti pour Halloween. Alors, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus, il y a 2 ans ou 1 an. Et donc, c'est 13 auteurs qui ont écrit 13 nouvelles. Ben d'ailleurs, il y a Marissa Rachel dans le collectif aussi, qui a
D'accord.
écrit une nouvelle. Voilà.
Ok. Tu me donneras le lien et puis je le mettrai dans les liens sur l'article associé au podcast.
Je fais partie d'une compagnie théâtrale qui s'appelle les As du Tipi, qui regroupe des personnes atypiques qui ont des handicaps. On se produit sur scène, on a plusieurs spectacles. Et moi, je joue dans la conférence gesticulée, Les curiosités au pays de l'emploi, qui est une conférence gesticulée sur l'emploi et le handicap invisible. C'est pour sensibiliser à cette problématique.
D'accord. Tu en parles sur ta chaîne YouTube? Parce que tu as une chaîne YouTube aussi.
Non, j'en parle pas sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a l'interview chez Morandini, il y a une lecture de Cendrillon du trottoir par Marissa Rachel et le book trailer du Pentacle de Vénus. Je ne suis pas très douée avec la technique.
T'as une chaîne YouTube quand même. Ceux qui sont pas très
Oui.
doués avec la technique ont pas de chaîne en général.
Et puis, il y
Enfin
a la
bon.
playlist aussi. Il y a la playlist de Cendrillon du trottoir. C'est pour ça
Ok.
que j'avais fait à l'origine. Puisque Cendrillon du trottoir est un livre interactif avec de la musique. On ne l'avait pas précisé.
Oui. Bah, de toute façon, je vais inviter les auditeurs à aller se renseigner sur ce livre. Il y aura des liens, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'article associé sur mon site internet. Donc, bah, on en arrive à la fin de cette interview, de ce podcast. Et d'abord, je voudrais remercier Marissa Rachel qui nous a mis en contact. Je voudrais te remercier toi aussi pour ta disponibilité, pour la préparation de cette interview et pour avoir accepté mon invitation.
Eh bien, je te renvoie tes remerciements, Steve. Ça a été un plaisir de débattre tous les deux. Je remercie moi aussi Marissa de nous avoir mis en contact.
D'accord. Eh bien, je te souhaite une excellente journée et je souhaite une bonne journée aux auditeurs.
Au revoir.
Au revoir.
Je vous invite à vous rendre sur mon site internet stevealdeman.com, stevealdeman.com, pour découvrir l'article associé à ce podcast sur lequel vous pourrez trouver les liens vers les livres dont nous avons parlé ainsi que vers les associations. Je vous rappelle que si vous avez écouté cet épisode de podcast, c'est également possible sur ma chaîne YouTube, la chaîne de Steve et Rose Haldeman. Vous pourrez y trouver un certain nombre d'interviews vidéo. Je vous invite à vous informer sur notre double roman, Maître et Soumise, leur histoire, qui est en deux parties, c'est bien un double roman. Le premier, c'est Ma Soumise, mon amour, que j'ai moi-même écrit. Et le deuxième, c'est Mon Maître, mon amour, écrit par Rose. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.